sur France Inter.
Quelqu'un dont la langue maternelle est le russe ne peut pas ne pas aimer Pouchkine. Nous, on peut ne pas aimer Victor Hugo et se sentir tout de même français. Mais Pouchkine fait partie de la vie courante. Si vous êtes au café en Russie et que vous partez sans payer parce que vous êtes mécontent du service, le garçon va vous courir après et il vous dira « Qui va payer ? C'est Pouchkine ?» On pourrait comparer Pouchkine à Shakespeare, mais Shakespeare ne paiera pas votre café.
L'heure bleue sur France Inter.
Notre invité ce soir est André Markowitz, poète, traducteur, écrivain. Et nous allons commencer, parce qu'il a aussi beaucoup d'humour, même s'il traduit Dostoïevski, Gogol, Shakespeare et bien d'autres. On a pensé pour lui à Renaud, ça fait du bien d'écouter un petit peu de Renaud. « It is because you are ».
When I have rencontred you, you was a jeune fille au père, and I put a spell on you, and you roll a bell to me. Together we go partout, on my mob, it was super, it was Friday on my mind, it was a story d'amour. It is not because you are, I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, I am you, I am you. You was really beautiful, in the middle of the fool. Don't let me misunderstood, don't let me, sinon I would. My loving, my marshmallow, you are belle. I am beau. You give me all what you have, I say thank you, you are bien brave. It is not because you are, I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, I am you, I am you. This is a musical bridge. I wanted marry with you and make love very beaucoup, to have a max of children just like Stone and Chardin. But one day that must arrive, together we disputed for a stupid story of freak. We decide to divorce. It is not because you are, I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, I am you, I am you. You shouted comme une madeleine, not me, I have my dignity. You tell me you are a sale mec, I tell you, poil to the bec. That's comme ça that you thank me, to have learning you English. Et that's not you qui m'a appris, my grandfather was roast beef. It is not because you are, I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, I am you, I am you. It is not because you are, I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, I am you, I am you, I am you.
Ben manifestement, André Markowitz, vous semblez connaître par cœur cette chanson
non,
de Renaud.
C'est
Who are you, André Markowitz?
C'est mes 20 ans, c'est-à-dire que Mais ouais, quand j'avais 20 ans, je connaissais ça par cœur. Et en fait, je n'avais pas entendu depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, enfin, je ne dis pas mon âge, mais enfin, depuis ce temps-là. Et en fait, ça me reste. C'est-à-dire que je peux recomposer les paroles.
Oui, vous les connaissez par cœur.
Mais oui.
D'ailleurs, dans quelle langue dites-vous à votre chérie « I love you » ? En russe, en français, en anglais, en chinois?
Ça, c'est une question tout à fait privée, mais...
Justement, c'est celle qui nous intéresse.
Oui, c'est tout ça, vous ne l'aurez pas. Mais non, c'est-à-dire que je parle russe avec ma maman et avec des amis qui parlent russe, et je parle français sinon, mais j'ai toujours deux langues. C'est-à-dire, j'ai toujours la première langue, c'est le français. Et le russe, je sens que si je le parle pas,
ça vous manque.
C'est pas que ça me manque, ça se délite.
Quelque chose se délite dans votre cerveau si vous parlez par russe.
C'est pas que le cerveau qui se délite. C'est la langue, c'est-à-dire, vous savez, il y a dans Les Trois Sœurs ce moment absolument pathétique où...
Alors, Les Trois Sœurs, Tchekhov, que vous avez aussi traduit comme Dostoïevski, l'intégrale.
Mais oui,
parce que vous faites les choses jusqu'au bout. Quand vous commencez un auteur, vous le traduisez jusqu'au bout, c'est-à-dire tout Shakespeare, tout Dostoïevski,
pas tout, faut quand même pas exagérer. Mais Tchekhov, c'est avec Françoise Morvan. Mais quand Irina, tout à coup, au troisième acte, elle est prise d'une angoisse terrible et elle dit « Mais j'ai oublié comment on dit plafond en italien ». Eh ben, ça, c'est une angoisse que je comprends parfaitement. Tout à coup, des fois, dans la conversation, ou juste en réfléchissant, il y a un mot russe qui m'échappe. Et là, on a l'impression que c'est un abîme qui s'ouvre, quoi.
Alors souvent, on dit dans les contes de fées qu'il y a des fées au-dessus des berceaux. Vous, en fait, vous en avez eu plusieurs de fées. Dans ce berceau de l'appartement de Prague où vous êtes né en 1960, il y avait plusieurs fées, mais elles ne parlaient pas la même langue.
C'est-à-dire, il y avait deux grand-mères. Ma grand-mère, la mère de mon père, qui donc parlait français, en fait, yiddish et polonais. Mais surtout, après, on est vivre à Moscou, et il y avait ma grand-mère, la mère de ma mère, qui parlait russe, et qui, en fait, m'a élevé dans mes premières années. Et ma grand-mère considérait que les enfants comprennent tout, et que donc, faut pas leur parler comme à des petits-enfants. Et puis, elle avait une autre chose, c'est qu'elle ne chantait pas, elle disait des poèmes. Et elle me disait les contes de Pouchkine. Et là, il y a trois semaines, j'ai été capable de traduire un conte de Pouchkine, le conte du coq d'or, que me dit ma mère, à qui j'ai demandé ça il y a encore pas longtemps, je connaissais par cœur quand j'avais deux ans, trois ans. Et ça me paraissait invraisemblable, parce que ça fait un conte de 250 vers, je ne lisais pas. Mais en fait, ce que je savais par cœur, c'était la façon dont ma grand-mère me le disait, en me montrant les images. Dans les illustrations de Konashevitch. Et en fait, quand après on est venu en France, ça a entièrement disparu. Je suis devenu un garçon français normal.
Ça existe ?
Non, ça n'existe pas. Mais disons, les garçons français, pas normaux, mais normaux quand même, ils connaissent pas par cœur des tartines de Pouchkine. Et voilà. Et en fait, c'est resté. C'est resté comme un substrat. C'est pour ça que je suis touché par Renaud. C'est des choses que...
Qui se mélangent et qui virevolent dans notre tête et
qui sont là.
Dans notre arrière-mémoire,
voilà,
en fait.
Voilà. Comme quelque chose qui sont, en fait...
On dit que la langue, c'est un bain et qu'il faut être baigné dedans pour pouvoir en saisir comme ça des sonorités, des rythmes, la sensualité. Vous avez été baigné dans plusieurs langues, déjà dans le russe et dans le français,
oui,
dès votre naissance, André Markovitz.
Baigné dans le russe, en fait, c'est trop simple. Parce que quel russe ? C'était pas le russe de la rue, c'était pas le russe des communistes ou des soviétiques, c'était le russe de l'intelligentsia de Pétersbourg. Le russe de Pouchkine, le russe de Tchekhov. Ça encore, je reviens toujours à Tchekhov. Mais quand on traduisait Les Trois Sœurs, je me suis rendu compte que je connaissais tous les proverbes latins qu'il y a dans Les Trois Sœurs. Et je les connaissais, pas parce que j'avais fait du latin, et j'avais fait du latin, mais parce que ma grand-mère les disait. C'est-à-dire que Tchekhov avait, en 1900, saisi au vol sa langue à elle. Enfin, sa langue là, en tout cas la langue autour. Ma grand-mère est née en 1888 et ma grande-tante, elles ont toujours vécu ensemble, en 1890. C'est-à-dire que ma grand-tante avait 14 ans quand Tchekhov est mort. Et donc réellement, c'était leur langue. Et cette façon c'est dans cette langue-là que j'ai été baigné.
Oui, mais contrairement à ce que vous pourriez faire croire, André Markowitz, votre travail de traducteur n'est jamais la restitution d'une nostalgie d'une langue perdue.
Ah non, bien sûr.
Au contraire, vous avez fait vraiment des polémiques, vous avez occasionné des polémiques terribles, des batailles d'Hernani au moment de vos traductions de Dostoïevski. Parce que ça soit pour Dostoïevski, Tchekhov ou Pouchkine, vous introduisez dans la langue française, dans ce travail de passeur qu'est le traducteur, eh bien des mots d'aujourd'hui, y compris des mots qui peuvent appartenir au langage soi-disant un peu relâché, disons un peu vulgaire, un peu commun, un peu banal.
Vous savez quoi, je pense pas. Je pense pas. C'est-à-dire peut-être pour Dostoïevski, mais et encore, j'ai toujours fait attention de pas utiliser de mots qui étaient pas dans les dictionnaires français de, disons, 1900. Et pour Tchekhov, c'est sûr que non. Par contre, là où on a l'impression que c'est une langue, comment dire, moderne ou je sais pas quoi, c'est pas le vocabulaire.
Enfin, une langue d'aujourd'hui qu'on a envie d'écouter.
Voilà. C'est pas une question de vocabulaire, c'est une question de syntaxe. C'est-à-dire que il n'existe pas de langue écrite en russe. Le concept n'existe pas. Chaque écrivain écrit à sa façon.
Comment ça, il n'existe pas de langue écrite en russe? Ça veut dire quoi, André Markowitz?
Ça veut dire qu'en français, il y a des codes pour la langue écrite, qui sont très différents de la langue parlée. Et en russe, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La langue de Dostoïevski n'est pas celle de Tchekhov, mais c'est pas une langue, comment vous dire, c'est pas une langue qui cherche l'élégance, c'est pas une langue normée. Voilà. Et donc c'est pour ça que en jouant sur l'intonation, c'est-à-dire en jouant sur l'ordre des mots, sur l'ordre des propositions, exactement comme c'est en russe, on arrive à rendre compte d'une chose qui me semble très très importante, pas tellement d'une modernité, mais d'abord du primat de l'émotion. Ça c'est une chose chez Dostoïevski en particulier. Mais qu'est-ce que ça veut dire le primat de l'émotion? Ça veut dire aussi le primat de la mauvaise foi. C'est-à-dire que le narrateur de Dostoïevski, vous emportant dans sa mauvaise foi, il ne dit pas qu'il dit vrai.
Enfin, puisque vous parlez de Dostoïevski, parlons des frères Karamazov que vous avez traduits, comme toute l'œuvre de Dostoïevski. Oui. Cette traduction avait fait beaucoup de charivari dans le monde littéraire, parce que vous aviez à cette occasion restitué l'historicité des autres traductions, et vous nous avez appris que il y avait des traducteurs qui enlevaient des personnages parce qu'ils les comprenaient pas. Par exemple, il y avait une version traduite en français où le grand inquisiteur n'existait pas parce que il savait pas le traduire, le type qui traduisait.
Non, mais ça remonte à Gide. Gide a dû lire en allemand les frères Karamazov parce que le premier traducteur français a juste enlevé cet épisode. Mais ça, c'est vrai pour plein d'auteurs, pas simplement pour Dostoïevski, mais jusqu'encore maintenant, je ne sais pas si c'est vrai encore maintenant, mais par exemple pour Oblomov de Gontcharov en folio, il y a un tiers du livre.
Alors Oblomov de Gontcharov qui a été monté à la Comédie Française et interprété merveilleusement par Guillaume Gallienne, notre camarade du samedi.
Mais absolument, et on avait travaillé ensemble, mais Gallimard publie une traduction de, je ne sais pas, 1900-1930, où il manque juste un tiers du livre, parce que le traducteur à l'époque a considéré que les digressions retardaient le roman.
Donc pourquoi vous êtes devenu traducteur? Pour redresser notre littérature mondiale que nous aimons pour que nous comprenions mieux à la fois Dostoïevski, Tchekhov, Shakespeare et d'autres, et Pouchkine évidemment.
Je ne sais pas du tout pourquoi je suis devenu traducteur. Pourquoi? C'est une question très compliquée et peut-être finalement...
Moi j'ai une réponse.
Alors dites...
Parce que j'ai lu votre livre, Partage, qui est une succession d'articles que vous faites sur Facebook tous les jours, mais qui est un journal intime absolument passionnant qui vient de paraître aux éditions Inculte. Et dans une de vos chroniques autobiographiques, vous parlez de vos arrière-grands-parents et d'une langue qui aujourd'hui est en train de disparaître, n'est presque plus parlée, et qui est le yiddish. Et je me suis demandé si à travers votre recherche de la multiplicité des langues et à travers votre manière si géniale de nous faire comprendre ces grands auteurs, il n'y avait pas un désir de faire réapparaître ce yiddish qui a disparu dans les générations familiales.
C'est, pour moi, traduire, c'est faire entendre dans ma langue de travail, dans la langue d'accueil, le français, quelque chose d'une autre langue. faire entendre l'étranger en soi, ouvrir la langue française. Parce que la langue française, comme devrait être la nation française, elle est accueillante, vaste, généreuse. Et personne ne peut dire comment il faut écrire en français. Et personne ne peut dire qu'est-ce que c'est que l'état de la langue et des choses comme ça.
Pourtant, il y a des grammairiens qui nous enjoignent d'écrire un français normé,
voilà,
comme vous dites.
Mais eh ben, je suis pas grammairien, et donc je me poserai pas contre ni pour. C'est juste pas mon truc. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de faire entendre quelque chose qui n'existe pas, parce que c'est juste ailleurs. Et si la traduction est un domaine de la littérature tellement passionnant, c'est parce que ça permet de travailler sur plein de registres de langue et d'amener des formes nouvelles dans la littérature française. Et je sais pas si c'est pour ça que je suis devenu traducteur, je pense pas. Je suis devenu traducteur simplement parce que j'ai toujours eu de langue et que ça m'intéresse. Et que voilà, je peux pas imaginer autrement. Mais le fait de pouvoir entendre des intonations différentes, des formes différentes. Et de fait, le yiddish... alors, moi, j'ai entendu le yiddish, je ne le parle pas du tout, ni rien. Comment vous dire? De faire, en quelque sorte, revenir des ombres. Hein? Moi, c'est ça qui me... Des ombres qui ne sont pas des ombres mortes, qui sont des ombres, j'appellerais, brasillantes. Pas lumineuses, brasillantes. Je parle dans Partage de ce moment où j'étais tout jeune et dans un café, je me suis retrouvé avec des vieux et j'ai compris qu'ils parlaient yiddish et j'étais absolument fasciné parce que j'avais, voilà. Et tout à coup, il y a un vieux qui m'a demandé de venir vers lui et qui, on s'est mis à parler, il m'a raconté comment il avait été fusillé, comment il était pas mort, enfin, pour des trucs. En touillant son café, il me racontait ça. Et en même temps, il me dit, mais en désignant ses copains, il me dit, mais tu crois qu'il parle une langue? Il parle aucune langue. Parce que moi, j'ai fait les lettres, moi, j'ai fait les études. Il disait, moi, je suis de Vilno. Je sais comment écrire et la grammaire. Alors que eux, c'est, ils parlent juste comme ça. Et d'imaginer ces gens qui parlaient aucune langue, et qui étaient comme des espèces de survivants d'une catastrophe qui était tellement immense qu'ils la remarquaient, que c'était comme s'ils ne la remarquaient plus parce qu'elle était devenue eux-mêmes. Ça m'avait absolument stupéfait, bouleversé. Et si je pus parler de ça, pas dans une traduction, mais justement dans une chronique, et puis après dans un texte, dans un poème que j'ai pu écrire, ça c'était pour moi très important. En quelque sorte, faire venir ces gens qui étaient là et qui parlaient de, je sais pas, du bel canto, ils parlaient du bel canto, puis en même temps ils faisaient leur tiercé, quoi. Mais en yiddish, c'était une chose terrifiante.
Nous allons écouter la voix de Svetlana Alexievitch. Je rappelle qu'elle a eu le prix Nobel, que c'est l'auteur d'une œuvre considérable, La Supplication, Les Cercueils de Zinc, La Fin de l'Homme Rouge. Elle écrit ce qu'elle entend. Svetlana Alexievitch, et depuis maintenant très longtemps. Nous allons l'écouter à propos de son enfance et de la guerre. C'était le 25 mars 2014.
Ну, конечно, эти песни печальные, которые пели крестьянки, да, эти разговоры на праздники, они, конечно, не были такими красивыми и радостными. После войны это были печально, все было очень печально. Это я еще раз повторю, это была моя травма, и в то же время это воспитало во мне
Bien sûr, ces chansons tristes que chantaient les paysannes, ces conversations, les jours de fête, c'était pas très gai. Après la guerre, tout était très triste. Je répète, ça a été pour moi un traumatisme. Et en même temps, ça a développé en moi un immense respect pour la vie. Et aussi, le fait de savoir que la vie, ce n'est pas quelque chose de simple. Tout est très compliqué dans cette vie, il faut beaucoup de force pour rester un être humain.
Nous venons d'entendre la voix de Svetlana Alexievitch. Est-ce que pour vous, André Markovits, elle continue une sorte de cheminement dans la langue russe, le cheminement initié justement par des Tchekhov, par des Pushkin, c'est-à-dire une jonction entre le populaire, l'intime et l'universel?
Absolument. C'est une des personnalités les plus extraordinaires qui est vivante en ce monde. Et surtout une femme sans peur. Et c'est la première qui a osé parler de la guerre telle qu'elle est, et en particulier de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on représente toujours en Russie comme quelque chose d'héroïque et de sacré. Et la façon dont elle en parle, et surtout dont elle parle du point de vue des femmes sur cette guerre, et en particulier en Biélorussie, est quelque chose d'absolument fondamental, qui fait que c'est la grande voix de la littérature russe en ce moment.
À l'intérieur de l'histoire de la littérature mondiale que vous nous restituez grâce à vos traductions, il y a un travail évidemment de possibilité de déploiement, de compréhension du sens, mais il y a aussi une grande sensualité dans votre art de faire de la traduction. Et il y a aussi un désir très profond, qui je crois est contagieux, de nous faire comprendre qui écrivait. Par exemple, Pouchkine, dont j'ai lu là en début d'émission ces petites phrases que vous avez écrites sur lui, en disant que Pouchkine, en Russie, tout le monde le connaît, quand on veut pas payer un café, on
Pouchkine dit Pouchkine заплатит, oui.
Eh bien, vous nous avez appris que Pouchkine, en fait, avait essayé de se suicider. Alors, et qu'il n'était pas mort dans un duel, alors qu'on nous apprend ça à l'école.
Non, il est mort en duel. Il est mort en duel. Alors, l'idée du suicide, je dis que c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que, à partir d'un certain moment, la vie de Pouchkine devenait absolument impossible. Il était criblé de dettes, et les dettes ne pouvaient qu'augmenter parce que le tsar le retenait à Pétersbourg. Le tsar ne l'empêchait de travailler, l'empêchait de publier, et il arrivait à une espèce d'impasse totale. Et il a écrit le 19 octobre 1836. Le 19 octobre, c'est une date très importante. Il a écrit toute une série de poèmes le 19 octobre. C'était le moment où il est entré au lycée de Tsarskoe Selo, où il a rencontré ses amis, le début de sa vie. Et donc, le 19 octobre 1836, dernier 19 octobre de sa vie, il a écrit un poème splendide, grandiose, que j'ai publié l'histoire. Il a aussi publié, il a daté de 1800, de la même date, la préface de La fille du capitaine et une lettre à son ami Tchadaev, qui était enfermé chez lui mais considéré comme fou par le tsar parce qu'il avait dit que la Russie était une vue de l'esprit, qui n'existait pas. Et le tsar l'avait considéré comme un malade mental et c'était le premier exemple de dissident considéré comme un malade mental. Après, les soviétiques ont fait la même chose en bien pire. Et le 19 octobre, Pouchkine écrit ces trois textes en mettant la date pour, et en quelque sorte après, il a arrêté d'écrire. Et après, il a envoyé cette lettre à ce type qui courtisait sa femme, ce Français, et ce Français qui était un imbécile, et qui ne parlait pas un mot de russe, qui ne savait pas qui était Pouchkine. Et qui donc, et qui était en plus, enfin, c'est une histoire monstrueuse, l'histoire de, je vous la raconte, non, c'est pas, si, c'est-à-dire que, en fait, Dantès, qui a tué Pouchkine, était homosexuel. Et il était l'amant de l'ambassadeur de Hollande. En soi, ça posait pas de problème. Évidemment, ça posait de problème à l'époque. Sauf que, naturellement, si ça avait été su, ça aurait été un scandale pas possible, parce que le gars était ambassadeur. Et donc, ils ont cherché visiblement une couverture. Et leur choix est tombé sur la femme de Pouchkine, qui était la plus belle femme de la cour, et qui aimait bien qu'on lui fasse la cour. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais et à certains moments, Pouchkine a cherché le duel et a envoyé une lettre d'insulte à l'ambassadeur.
Bah, c'était l'amant de sa femme, normal.
Mais c'était pas l'amant. Mais et donc voilà, bon bref, hein, c'était pas la question, mais un ambassadeur peut pas se battre en duel. Donc c'est Dantès qui s'est battu et Dantès, bah, il a tué Pouchkine. Mais vous savez, il y a une histoire monstrueuse après. C'est que Tourguenieff et après Dantès est devenu dans sa vieillesse un sénateur très réactionnaire de Napoléon III. Et Tourguenieff l'a rencontré et lui a demandé c'est une nullité, un crétin absolu, oui. Et Tourguenieff lui a demandé mais est-ce que vous comprenez qui vous avez tué? Et Dantès l'a regardé en faisant les yeux ronds et a dit « Mais monsieur, il aurait pu me faire pareil. » Et c'était tellement vrai.
Comment savez-vous tout ce que vous savez, André Markowitz? Vous dormez combien d'heures
mais non,
par
mais
nuit?
Ça, tout le monde le sait. Je dors beaucoup. Ça, tout le monde le sait en Russie, je veux dire. C'est pas... Enfin, c'est-à-dire... Voilà, mais c'est le fait que Pouchkine a cherché le duel et qu'il a en quelque sorte voulu ça. Parce que s'il avait tué Dantès, ce qu'il aurait très bien pu faire, le duel, comme le duel était puni de mort, bon, il n'aurait pas été condamné à mort, mais il aurait été exilé.
Un petit poème de Pouchkine en direct dans l'heure bleue, en russe évidemment, André Markowitz.
На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя светла, печаль моя полна тобою, тобой, одной тобой. Уныние моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может.
Vous écoutez L'Heure Bleue, il est 20h31, vous êtes sur France Inter et vous allez écouter le choix musical d'André Markowitz.
Du sollst nicht sorgen, als du gehst im letzten Weg, wenn Himmeln bleiene verstellen bläue Teig, weil kommen wird noch unser Eus gebänkter Schor. Es wird abbeugt in unser Tritt, wir sinnen da, weil kommen wird noch unser Eus gebänkter Schor. Es wird abbeugt in unser Tritt, wir sinnen da. Es wird die Morgensonne beleuchten unser Heind, die schwarzen Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Und neu versäumen wird du Sinn für den Kajor, via Parol soll dann du Fried von dort zu dort. Und neu versäumen wird du Sinn für den Kajor, via Parol soll dann du Fried von dort zu dort. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht ein Lied, find sie mir Feugeläufen frei. Nur so der Volk zwischen Fallen dicke Wend. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Nur so der Volk zwischen Fallen dicke Wend. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Palmenland bis Land vom weißen Schnee. Wir kommen ein mit unser Fein, mit unser Wein. Und wie gefallen dieser Spritz in unser Blut, sprotzen wir dort unser Gebure, unser Mut. Und wie gefallen dieser Spritz in unser Blut, spritzen wir dort unser Gebure, unser Mut. So keinmal, als du gehst im letzten Weg, wenn Himmeln bleiene, verstellen bläue Teig, weil kommen wird noch unser Eus gebänkter Schor. Es wird abbeugt in unser Tritt, wir sinnen da, weil kommen wird noch unser Eus gebänkter Schor. Es wird abbeugt in unser Tritt, wir sinnen da.
Nous venons d'entendre les chants yiddish de Moshe Lézière avec Ami Flammer au violon. Pourquoi ce choix, André Markowitz?
C'est le chant des partisans. C'est le chant, un chant composé par Hirsch Glick, un jeune homme de Lettonie, qui était un résistant, qui est mort en 1944. Et ce chant, je l'ai entendu d'abord par Moshe Lézière. Là, c'est pour ça que j'ai voulu faire entendre cette version-là. Mais après, et ça dit « Wir sehnen do, nous sommes là ». Et pour moi, c'est absolument fondamental parce que, à la fois « Wir sehnen do, nous sommes là », mais nous ne sommes pas là. Et c'est cette chose ensemble, en même temps, de ces ombres qui sont là et qui ne sont pas là, qui sont, je pense, une de mes obsessions, disons ça comme ça.
Mais traducteur de Dostoïevski, de Shakespeare, de Tchekhov, de Pushkin, c'est vivre avec les ombres des grands en permanence, non ? Ils sont derrière votre épaule, ils vous indiquent des directions.
Ils m'indiquent rien, mais c'est simplement... C'est, vous savez, traduire, je dis ça souvent, mais c'est peut-être, je peux le redire là. Il y a un mot qui est absolument intraduisible en russe, et un mot français magnifique, le mot « reconnaissance ». C'est-à-dire, reconnaissance, c'est à la fois la gratitude, mais c'est à la fois le fait de reconnaître, c'est-à-dire de dire « Ah mais oui, je sais qui tu es ». Et puis, eh ben, la traduction, c'est un exercice de reconnaissance. C'est-à-dire, d'abord, et c'est fondamental, un exercice de gratitude, parce que c'est extraordinaire d'avoir la chance de lire, et traduire, c'est lire, des auteurs pareils. C'est d'abord ça. C'est une chance sublime. Mais il y a encore autre chose. Il faut que celui qui le lit en russe, c'est-à-dire qui n'a pas en russe ou dans n'importe quelle langue, qui n'a pas besoin de toi, puisse le reconnaître. Et il faut que cet auteur, en quelque sorte, puisse se reconnaître. Et c'est pour ça que j'essaie d'être, je dis ça sérieux, reconnaissant. De ne jamais oublier ni d'où je viens, ni cette chance incroyable que j'ai de d'abord de travailler la langue française, qui est une langue tellement belle, tellement belle, tellement riche, avec des accents d'autres langues tout aussi belles.
En tout cas, vous avez été remarqué dès vos débuts de traducteur, André Markowitz, par les plus grands metteurs en scène qui ont voulu prendre vos traductions pour justement les utiliser dans leur propre mise en scène. Nous allons écouter la voix d'Alain Françon qui va parler de votre travail. Alain Françon avec qui vous avez un long compagnonnage, oui, notamment pour Tchekhov. Oui.
On a travaillé ensemble sur les 6 pièces majeures de Tchekhov. Chaque fois, on commençait par entendre le texte en russe, de façon à ce que les acteurs aient comme ça une notion rythmique, en gros. Et puis après, on essayait de... Ben, en général, André et Françoise étaient là tous les deux pendant 15 jours à peu près de lecture de la pièce, où les acteurs, je leur demandais de poser toutes les questions qui leur semblaient utiles pour eux de poser sur les choix de traduction. Et pourquoi cette tournure et pourquoi cette manière de s'exprimer, en quoi c'était soit quelque chose qui avait à voir avec une langue commune partagée par tous les personnages, ou au contraire si c'était quelque chose de très particulier, enfin une manière de s'exprimer d'un personnage ou d'un caractère. Et puis on a toujours travaillé avec Françoise et André sur la matérialité du texte, donc par exemple, voir comment un motif dans les pièces de Tchekhov, ça fonctionne surtout comme ça. Par exemple, comment un motif circule. Je me souviens plus dans La Mouette, par exemple, à partir de quel moment tout le monde dit il faut que. Et donc, à ce moment-là, c'est un motif qui se déplace. Et donc, ça, c'était le travail essentiel. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on a monté les pièces. Même si les traductions étaient déjà faites, je crois que sur toutes elles étaient déjà faites. Bon, peut-être je me trompe, peut-être qu'il y en a une qui n'était pas faite. En tout cas, si elles avaient été faites avec Françoise et André, on remettait tout à l'ouvrage. André prenait le texte russe, moi je lisais en français par exemple, Françoise contrôlait ou regardait. Et finalement, on se rendait compte que il y avait énormément de choses que tout à coup, ils avaient envie tous les deux de modifier par rapport à leur première traduction. Donc c'est ça que je trouvais beau, parce que c'était, c'était à la fois très... c'était presque festif de refaire ça, quoi. C'est-à-dire que de ne pas s'arrêter à un texte définitif trouvé, mais comme si finalement c'était vertigineux et que ça s'arrêterait jamais, tant il est important de trouver la traduction juste. Et je trouve que c'est ça la grande force de son travail, c'est de garder toujours le texte français, enfin celui que lui propose, de le garder toujours en mouvement. Et comme si, voilà, il fallait toujours chercher la traduction optimale, enfin celle qui rendrait justice au texte tchékovien, voilà.
Alors nous venons d'entendre Alain Françon qui s'exprime sur votre travail que vous menez avec votre compagne Françoise Morvan depuis très très longtemps. Et à propos donc de Tchekhov, vous dites, André Markowitz, que quelquefois, d'abord vous traduisez, vous êtes un traducteur en français. Et ça vous le précisez et vous soulignez, c'est du français. Mais c'est oui. Du français qui doit s'inscrire dans la temporalité des auteurs que vous venez de traduire. Par exemple, quand vous traduisez Tchekhov pour Françon, vous n'allez pas prendre des mots qui n'étaient pas utilisés à l'époque de Tchekhov.
Exactement.
C'est un univers mental, traduire.
Françoise fait très attention à ça. Et d'ailleurs, on est toujours surpris, parce qu'on a toujours l'impression que le français...
Comment... Il ne s'agit pas d'adapter.
Ah, jamais, 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 jamais. C'est-à-dire... c'est toujours l'auteur du texte original qui dicte les choses. C'est toujours.
Mais est-ce qu'on le comprend forcément ? Parce que justement, à propos de Tchekhov, vous avez raconté une histoire qui est en apparence assez banale, mais quand même assez intéressante. À un moment, vous traduisez une nouvelle de Tchekhov où Tchekhov écrit qu'il y a une odeur de foin après la pluie. Et puis après, vous rendez compte que vous êtes complètement trempé. Parce que cette odeur de foin après la pluie, ça signifiait quelque chose de beaucoup plus tragique.
C'est Françoise qui m'a fait remarquer ça. C'est-à-dire que l'odeur du foin laissé sous la pluie. Et moi, j'avais juste traduit ça. Et Françoise, relisant ça, me dit « Mais vous n'avez rien compris à cette nouvelle. » Parce que qui est-ce qui laisse du foin sous la pluie ? Qu'est-ce que ça veut dire, le foin sous la pluie ? Mais ça veut dire la famine. Ça veut dire que les bêtes vont crever de faim. Ça veut dire que le domaine est laissé à l'abandon. C'est-à-dire que ce que moi j'avais pris pour une nouvelle sur ce que c'est un jeune couple qui veut s'installer, qui achète un domaine. En fait, par derrière, ça ne parlait pas du tout de ça. Ça parlait de, du désastre de la vie des gens à qui ils avaient acheté le domaine. Et c'est pour ça aussi.
Donc il y a plusieurs langues dans une langue.
Mais c'est même pas une question de
langue. Il y a plusieurs sous-textes.
C'est pas une question là pour le coup de langue. C'est juste une question de regarder la vie autour de soi. C'est que moi, j'avais juste pas fait attention à l'odeur du foin sous la pluie, alors que Françoise, elle avait fait attention à ça. Et la question est de mettre à la fois la langue juste, mais pas pour la langue en elle-même, mais pour donner une idée de la profondeur de la vie des gens. Parce que Tchekhov, c'est surtout ça. C'est ça qui est extraordinaire chez lui. C'est à chaque fois, c'est la vie, quoi. Dans ce qu'elle a de plus concret, de ce qu'elle a de plus prosaïque, de plus précis. Et ça, Françoise, dans notre travail, elle apporte une espèce de connaissance vraiment vaste. Du monde de la nature, du monde de la campagne.
Donc traduire, c'est comprendre, traduire, c'est ressentir, traduire, c'est déployer l'unicité de sens qui correspond le mieux à la phrase qui est écrite. Oui, c'est ne jamais trahir, contrairement à l'adage en disant que le traducteur trahit toujours.
Oui, mais bien sûr, c'est une phrase que j'aime pas du tout, parce que, en fait, un traître, qu'est-ce que c'est ? C'est un type qui ne dit pas qu'il est un traître. C'est pour ça qu'il est un traître.
Donc un traducteur, c'est quelqu'un qui s'efface.
Non, qui dit, voilà comment j'ai lu. Et voilà que, comme j'ai lu, peut-être vous pouvez essayer de recréer ma lecture de ce texte. Mais jamais un traducteur ne devrait dire, enfin, en tout cas j'essaye de ne pas le dire, que ma traduction est la seule. Parce que comme un interprète, comme Sonia Vider-Atherton, elle joue des choses, les auteurs, les musiciens qu'elle joue, souvent elle n'est pas la seule à les jouer, mais quand elle les joue, on entend quelque chose de nouveau.
Oui, mais quand vous lisez des grands écrivains qui font partie du grand patrimoine russe, et là je voudrais parler de Solzhenitsyn, vous avez cru que vous l'avez compris. Et dans votre dernier livre, Partage, vous nous faites part de votre étonnement de vos différentes lectures de Solzhenitsyn. Nous allons l'écouter. Il va parler des régimes totalitaires. C'est un extrait d'une conférence de presse du 10 avril 1974.
Авторитарные режимы существовали столетиями.
Les régimes autoritaires ont existé pendant des siècles.
Во многих странах.
Dans de nombreux pays.
Авторитарные режимы совсем не значит беззаконные режимы.
Un régime autoritaire ne signifie pas du tout un régime absolument illégal.
Там огромная гамма.
Il y a toute une gamme.
И только на самом конце их.
Et simplement au bout de cette gamme.
Как написано в нашем сборнике из-под глыб.
Comme il est écrit dans notre recueil sous les décombres.
Только в 20 веке.
Ce n'est qu'au 20e siècle.
Только в нескольких странах.
Dans quelques pays seulement.
Родился тоталитарный режим.
Le régime totalitaire.
Причем всякий раз тоталитарный режим рождался не из монархии.
Dans chaque cas, le régime totalitaire n'est jamais né de la monarchie.
Не из авторитарного режима,
non, pas d'un régime autoritaire qui
а только из краха демократии.
Mais, de la faillite de la démocratie.
Так было в России.
C'est ainsi que ça a été en Russie.
Так было в Германии.
C'est ainsi que ça a été en Allemagne.
Так было в Италии.
En Italie.
И так сейчас на наших глазах в Португалии.
Et au Portugal.
Вот в нашем сборнике написано. Тоталитаризм рождается на слабой, неподготовленной демократии.
Le totalitarisme naît d'une démocratie faible et mal préparée.
Alors, comment ne pas reconnaître le génie de Solzhenitsyn? Vous le faites, vous l'écrivez dans votre dernier ouvrage, André Markowitz, Partage. Et pourtant, quand nous avons appris la mort de Solzhenitsyn, un concert de louanges bien légitimes a envahi la planète entière, mais il y a eu quelques voix très très minoritaires qui ont dit, mais essayez de regarder quand même ce qu'a écrit aussi Solzhenitsyn. Et vous nous expliquez comment la publication de deux ouvrages de Solzhenitsyn, traduits en français, pas par vous, sont passés comme des lettres à la poste, alors que c'était des ouvrages purement antisémites.
Solzhenitsyn, à la fin de sa vie, et en fait assez vite, est devenu un nationaliste russe de droite extrême. Et finalement, dans son dernier livre, qui s'appelle 200 ans ensemble, 200 ans ensemble, c'est la vie des Juifs et des Russes en Russie. Les malheurs provoqués par les Juifs, hein, et les Juifs, par le problème juif, c'est comme ça que dit Solzhenitsyn, en Russie. Et quand tu lis ça, mais tu dis, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que c'est une suite de clichés antisémites. C'est un livre honteux. Mais Solzhenitsyn s'en est pris d'une façon extrêmement violente et terrible à Andrei Sinyavsky, qui était un des représentants, un grand, grand écrivain, mais aussi un des représentants de l'immigration démocrate. Et Solzhenitsyn se proclamait lui-même. Il a écrit un pamphlet qui s'appelait « Nash pluraliste » et « No pluraliste » en disant que la honte de l'Occident, c'était la démocratie. Et que, par exemple, il détestait un chanteur que moi j'aime beaucoup, Galich, peut-être qu'on l'entendra, et il disait que qui était juif, que Galich était la preuve de la pourriture de la démocratie, parce qu'il disait qu'il faut douter de la vérité. Pour Solzhenitsyn, il disait mais on peut pas douter de la vérité puisque Dieu existe. Et de voir les thèses de Solzhenitsyn et la figure de Solzhenitsyn reprise par la propagande de Poutine maintenant, par la Russie officielle, de voir Solzhenitsyn devenu une figure officielle en Russie, même, c'est quelque chose de monstrueux, même si, et naturellement, Solzhenitsyn est un écrivain immense, et ses premiers romans, et l'Archipel du Goulag, sont des livres déterminants. Et sur ça, il y a aucune question. Mais c'est un personnage beaucoup plus complexe est beaucoup plus terrible que ce qu'on veut bien le dire. Et ce qui m'a sidéré, cet article que j'ai repris dans Partage, je l'avais publié dans Charlie à l'époque, c'est que personne en France, finalement, n'avait protesté contre ce livre. Mais c'était hallucinant. C'était paru chez Fayard, et Fayard publiait un truc sur le problème juif. Mais c'est hallucinant, le problème juif.
Alors, on n'a pas dit, on va pas rester dans le domaine russe, parce que on n'a pas encore dit à nos auditeurs que vous avez aussi traduit du chinois, notamment des poèmes Tang, et que vous avez aussi beaucoup traduit Shakespeare. Alors, je sais que votre mère a une influence considérable sur vous, et vous a beaucoup aidé dans votre enfance et votre adolescence. Je sais aussi qu'elle était d'origine russe et qu'elle était traductrice américaine de profession. Mais Shakespeare, pourquoi elle, Shakespeare?
Elle n'a pas été traductrice américaine, mais c'est pas grave. Mais elle est, Dieu soit loué, je touche du bois, elle est encore là. Shakespeare, parce que c'est mon papa Shakespeare.
Ah bah, dis donc.
Ben oui, c'est une histoire de famille. Non, mais c'est mon Shakespeare, voilà, c'est Shakespeare.
Et Dostoïevski, c'est qui? C'est votre grand-oncle,
non,
alors?
Non, voilà, exactement. C'est ma tante. Non, voilà. Shakespeare, c'est Shakespeare, voilà. Et puis c'était tellement extraordinaire de le faire. Mais comment vous dire, pour le chinois c'est encore autre chose. Pour le chinois, j'ai pas traduit du chinois, je parle pas du tout chinois. Ce qui m'a intéressé, c'était justement le fait que quand je regardais des traductions du chinois en russe, en anglais, en français ou dans toutes sortes de langues, c'était tellement différent sur le même poème, que les mots à mots étaient tellement différents que ça me posait question.
Une langue, c'est comme un rocher, on peut toujours l'escalader, on peut aller jusqu'en haut.
Ah ben certainement pas. Mais je ne pense pas que ça existe une langue. Je pense qu'il y a différents niveaux de langues, différentes langues, et en particulier, ben là pour le chinois, là c'est un truc. Tout mon travail a toujours été dirigé par une idée, l'idée d'équivalence. C'est-à-dire que
vous êtes comme un chaman au fond.
Non, mais c'est
vous
pas
pénétrez
ça.
L'univers de la langue.
Non, c'est pas ça. C'est que, comment vous dire, une phrase de Tchekhov en français, dans notre traduction, dure à 2-3 secondes près.
Bah allez-y, faites l'exercice en direct.
Non, mais là,
pour qu'on comprenne.
J'ai pas de. À Tchekhov, c'est que d'accord, t'es tchornem. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours en noir? L'idée, c'est que ça dure le même temps. Pourquoi? Parce qu'on est dans le même système de valeurs. Mais en Chine, en chinois, c'est pas du tout possible parce que c'est que des monosyllabes et ils conjuguent pas, il y a pas de mode, il y a pas de pluriel, il y a pas de singulier et puis c'est des idéogrammes. Donc l'idée d'équivalence disparaît et donc il faut tout recréer. Et c'est ça qui m'intéressait.
Donc vous êtes un créateur de monde, André Markowitz.
Un créateur, je sais pas, mais j'écris. Traduire, c'est écrire. C'est utiliser la langue française, ouais, pour écrire. Et c'était une façon d'écrire.
Alors, je vais vous citer une blague. Il paraît qu'elle vous définit, cette blague. Peut-on édifier le socialisme en Suisse? Point d'interrogation. On peut, mais pourquoi faire?
Eh ben, oui. Mais oui. C'est ce qu'on appelle en russe une blague arménienne. Mais si. C'est-à-dire que, techniquement, je peux vous faire des maîtres latins en français. Je peux.
Ah oui,
faire...
j'ai oublié de dire que vous traduisiez
du
évidemment
latin,
du c'est... grec et du latin.
Non, pas du grec, mais du latin. Mais non, mais c'est pas ça. Je peux vous faire.
Et cube par cœur.
Voilà. Je peux, si vous voulez, je peux vous faire ça. Je peux vous traduire.
Allons-y, vous restez
une
minute.
Non, mais c'est pas ça. Mais à quoi ça sert quand il n'y a pas la tradition? Quand il n'y a pas ce qui est autour? Et ce qui compte dans une traduction, c'est pas simplement le texte. C'est ce qui est le contexte, le monde autour. C'est pour ça que j'ai traduit tout Dostoïevski. C'est pour ça qu'on a traduit toutes les pièces de Tchekhov. C'est pour ça qu'on fait les choses, qu'on fait des cycles pour essayer de montrer, comment dire, pas un texte, mais 30, pour que les choses se répondent.
Ben, on a commencé avec Pouchkine, on va se quitter avec Pouchkine, un petit bout d'un conte de Pouchkine, comme ça, aller improviser à 20h54, avant la pub.
Non, mais ça, je sais pas, mais, non, pas, tant qu'à faire encore un poème. Пора, мой друг, пора. Надежды, как покое сердце просят. Летят за днями дни, и каждый час уносят частичку бытия. А мы с тобой твоем предполагаем жить, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Qui parle d'être heureux. C'est ça que dit le texte. Partons, amis, partons, le cœur demande grâce. Le jour succède au jour, et chaque instant qui passe nous prend un peu de vie. Voilà.
Merci beaucoup, André Markowitz. Merci infiniment. Alors, je rappelle que vous pouvez lire tout Shakespeare, tout Tchekhov, tout Dostoïevski. C'est publié aux éditions Actes Sud et aussi aux éditions des Solitaires Intempestifs. Et puis, vous pouvez lire ces deux volumes qui viennent de paraître donc aux éditions Incul, qui s'intitulent Partage et qui sont une véritable autobiographie d'un grand traducteur. Merci André Markowitz.
Merci à vous.
Et puis je voudrais remercier aussi toute l'équipe de Hors-Champ, Thierry Dupin, Véronique Barnet qui a réalisé cette émission, qui a été préparée par Élodie Royenne, Sophie Dazard et Arthur Daniel, avec la technique ce soir Jean-Noël Vélan, et puis Mishka qu'on retrouvera tout à l'heure. Your decision, honey. Dans l'heure bleue, ce soir, vous avez écouté The Last Shadow Puppets, Renaud, It Is Because You Are, et puis Moshe Leiser. Bonsoir, Mishka. Vous êtes complètement bilingue. La manière dont vous prononcez l'anglais me fait croire que le parlez depuis la tendre enfance.
Mais c'est à force d'écouter de la musique. Je suis très puriste et obsessionnel. Voilà, c'est tout. Mais non, je suis pas bilingue du tout.
Alors ce soir, des chanteurs anglais, américains.
Le rock, c'est en grande partie anglophone. Mais c'est les meilleurs moments de l'année 2016 côté rock'n'roll et mélodie. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Mishka.
Merci,
à tout à l'heure.
Tout de suite.